The winner is Emil Koza Jr. for Cleopatra.
Quel est le point commun entre le célèbre logo de la 20th Century Fox, la scène finale et inoubliable de la planète des singes et les décors somptueux du blockbuster Cléopâtre avec Elizabeth Taylor et Richard Burton? Un tchèque, tout simplement, qui a utilisé son talent artistique pour donner naissance à des images cultes du cinéma classique hollywoodien. Et pourtant, Emil Koza Jr., cet artiste tchèque né à Paris, est tombé dans l'oubli.
Thank you very much. I wish I could take the lady home with me instead of this little hospital.
Merci beaucoup. J'aimerais plutôt remporter à la maison cette dame plutôt que ce petit Oscar lorsque, 5 ans avant sa mort, Emil Koza Jr. vient sur scène chercher son Oscar qui récompense ses effets spéciaux pour le film Cléopâtre. Il le fait avec une pirouette humoristique destinée à la jeune femme qu'il la lui remet. Une petite phrase très applaudie alors et qui ne passerait d'ailleurs probablement plus trop de nos jours. Mais en 1963, ça ne choque pas vraiment grand monde et puis l'essentiel est cet immense succès qui vient couronner une carrière discrète, mais toutefois particulièrement marquante à Hollywood, et a fortiori quand on vient de battre un concurrent de taille, comme le souligne Jaroslav Olša, diplomate tchèque, consul général de la République tchèque à Los Angeles jusqu'en août dernier, et qui s'est pris de passion pour l'histoire des Tchèques qui ont réussi en Californie, et tout particulièrement pour Emil Koza Jr.
En réalité, c'est lui qui a conçu toute la vision de ce à quoi allait ressembler l'Égypte antique dans le film. Il faut savoir qu'il a reçu ce prix dans des catégories qui ont changé de nom au fil du temps. Effets spéciaux ou scénographie, les intitulés ont sans cesse évolué. Mais surtout, il a battu Les oiseaux de Hitchcock, ce qui est vraiment remarquable, parce que ce film était pour l'époque incroyablement innovant du point de vue des effets spéciaux. Malgré cela, c'est Cléopâtre qui l'a emporté. C'était quelque chose de tellement monumental pour son époque, de tellement incroyable, que c'est ce film qui a gagné. Enfin, il a reçu cet Oscar en son nom propre, car il a participé à un nombre incalculable de films sans forcément être crédité au générique.
Nothing like this has come into Rome since Romulus and Remus.
Mais avant de se retrouver avec la célèbre statuette entre les mains, la récompense d'une vie de création dans l'ombre de grands réalisateurs et de grandes histoires, l'histoire d'Emil Koza Jr. commence à Paris, où il naît le 28 novembre 1903. Son père, qui s'appelle aussi Emil Koza, est lui-même un artiste reconnu, collaborateur d'Alphonse Mucha à la fin du 19e siècle. Il fait partie du cercle restreint d'artistes que le peintre qui a magnifié Sarah Bernhardt avec ses affiches sollicite pour de grandes commandes internationales, notamment lors de l'exposition universelle où il travaille sur le pavillon de la Bosnie-Herzégovine. Installé pour cette raison dans la Mecque des artistes, Emil Koza y fonde une famille, comme le détaille Jaroslav Olša.
Il est né à Paris d'une mère française, Jeanne Marès, ce qui a longtemps conduit à le considérer à tort comme un peintre franco-américain. Malheureusement, sa mère est décédée alors qu'il avait environ 3 ans. Son père a cherché une nouvelle épouse et de surcroît, les possibilités à Paris n'étaient sans doute plus ce qu'elles avaient été auparavant. Il est donc rentré en Bohème, s'est remarié avec une Tchèque et ce petit Parisien qu'Emil Koza Jr. a finalement grandi en Moravie comme un enfant tchèque typique. Il a fréquenté l'école tchèque et un vrai petit Tchèque profondément ancré dans la culture locale.
Comme de nombreux artistes d'Europe centrale et comme son père avant lui, Emil Koza Jr. est attiré par Paris, alors centre mondial de l'art. Diplômé de l'Académie à Prague, il se rendra dans la Ville Lumière à la fin des années 20, il fréquentera les Beaux-Arts et bénéficiera de consultations auprès d'un des pères de l'art abstrait et son compatriote František Kupka. Mais c'est la Californie qui va véritablement façonner sa carrière. Au sortir de la Première Guerre mondiale, son père est invité aux États-Unis grâce à des contacts issus du cercle spectacle d'Alphonse Mucha. Emil Costa Jr., à peine âgé d'une vingtaine d'années, interrompt ses études et rejoint son père. À Los Angeles, du jour au lendemain, ce jeune homme se retrouve en Californie et commence à travailler. En Californie, Emil Costa Jr. s'impose rapidement comme l'un des maîtres de l'aquarelle. Il devient une figure clé de l'école californienne des années 30 et 40, comme le souligne Helena Musilova, historienne de l'art et conservatrice à la galerie de la ville de Prague.
Chez Emil Costa Jr., ce qui est particulièrement intéressant, c'est vraiment sa rencontre avec l'école artistique californienne, mais surtout le fait qu'il soit l'un des fondateurs de l'aquarelle californienne. On ne comprend vraiment la raison pour laquelle ces artistes se sont tournés vers l'aquarelle que lorsqu'on se rend en Californie. Cette lumière si particulière, radicalement différente de l'expérience centre-européenne ou parisienne, a imposé un tout autre mode de peinture. Soudain, la nécessité d'une peinture fondée sur la lumière s'est révélée de manière unique à travers l'aquarelle. Auparavant, je ne connaissais les œuvres d'Emil Costa Jr. qu'à travers des reproductions et je n'arrivais donc pas à les replacer pleinement dans leur contexte. Mais l'expérience physique du lieu est absolument fondatrice et se reflète clairement dans ses travaux. Chez Emil Costa Jr., on observe ainsi une articulation remarquable entre l'expérience centre-européenne, parisienne et l'expérience physique du paysage californien. Ces œuvres, qui sont bien sûr marquées par une évolution dans le temps, se caractérisent par un travail très poussé sur la lumière et par une palette d'une grande clarté presque éclatante qui serait sans doute jugée inappropriée en Europe centrale.
Contrairement à nombre de ses contemporains, Emil Costa Jr. parvient à mener de front une carrière de peintre indépendant et un travail intensif pour le cinéma. Il a accompli quelque chose d'exceptionnel, excellé à la fois dans la peinture libre, personnelle et dans son travail pour le cinéma, toujours au plus haut niveau, souligne encore Yaroslav Olcha. Parmi ses œuvres les plus recherchées encore aujourd'hui figurent non pas ses paysages naturels, mais ses vues urbaines. Car Emil Costa Jr. a capté un moment très particulier du développement de la Cité des Anges, comme le décrivent encore Yaroslav Olcha et Helena Musilova.
Emil Costa aimait passionnément peindre le Los Angeles en pleine expansion. Dans les années 1930 et 1940, la ville a connu un essor spectaculaire. Il arpentait les marges de la métropole et a réalisé toute une série de tableaux montrant des tracteurs, des pelleteuses, avec en arrière-plan la ville en train de naître. Ce qui rendait ses œuvres exceptionnelles, c'est qu'il était un peintre remarquable et qu'il savait traduire cette transformation avec une grande justesse. Ces tableaux rendent parfaitement compte des mutations de Los Angeles et ont toujours été très appréciés pour cette raison. D'ailleurs, ce sont précisément ces images qui figurent le plus souvent sur les couvertures d'ouvrages, y compris de livres qui ne sont pas consacrés à la peinture, car elles montrent véritablement ce qu'est Los Angeles et ce qu'elle aspire à être.
Emil Costa Jr. travaillait avec beaucoup de précision et il a capturé une époque à jamais disparue. Et il l'a fait comme dans une peinture. Bien sûr, il existe des photographies, mais souvent avec cette colorisation sur des photos en noir et blanc. Chez lui, on retrouve l'essence de la ville, la chaleur, la poussière, l'ardeur. Tout cela, je crois, vient de sa formation européenne en peinture. Il savait transcrire tout cela, même à l'huile. Et il l'avait appris de son père parce que c'était des techniques que les gens devaient absolument maîtriser s'ils voulaient collaborer avec des gens comme Alphonse Mucha. C'était un savoir-faire essentiel qu'il a pleinement pu exprimer en Californie.
Oh my God. I'm home. All the time. We finally, really did it. You maniacs!
Parallèlement, Emil Cossa Jr. joue un rôle central dans l'histoire des effets spéciaux à Hollywood. Comme de nombreux autres artistes tchèques, il travaille sur des backdrops monumentaux, soit des toiles de fond qui servent de décor au film, ou encore sur des peintures sur verre, appelées matte paintings. Sa contribution la plus fameuse reste la scène finale de La Planète des Singes ou encore le célèbre logo de la 20th Century Fox dont il a été un des employés.
Kdy on na sklo namaloval zničenou sochu svobody a přesto
en utilisant cette méthode de Matte, Emil Cossa a peint sur une plaque de verre la statue de la liberté détruite, à travers laquelle est tournée la scène finale où le héros du film arrive et s'effondre devant la statue. Sa réalisation la plus célèbre, c'est le logo de la 20th Century Fox. Or, même à la Fox, personne ne le savait. Et c'est nous qui le leur avons appris. En réalité, de nombreux Tchèques ont travaillé à Hollywood, comme Adolf Lechowski, qui a collaboré à des films bibliques avec Cecil B. DeMille. À partir des années 1930 et avec l'apparition des premiers films à grand spectacle, l'importance des effets spéciaux commence à se faire sentir. C'est là qu'entre en scène une figure clé, un autre Tchèque connu sous le nom de Fred Sersen, en réalité Ferdinand Sersen, qui devient le chef du département des effets spéciaux de la 20th Century Fox et fait venir plusieurs autres compatriotes de talent pour renforcer son équipe. Cette tradition a perduré dans les années 1960 et 1970, avec des figures comme Jerry Geber, Jaroslav Geber, connu notamment pour avoir peint une copie de la chapelle Sixtine pour un célèbre film des années 1960 consacré à Michel-Ange. Donc, les Tchèques sont présents à Hollywood depuis longtemps et je pense que certains commencent enfin à s'en rendre compte.
Malgré son immense influence à la fois sur la technique des effets spéciaux à Hollywood, mais aussi sur la peinture américaine, Emil Cossa Jr., tout comme ses autres collègues tchèques en Californie, reste peu connu en Europe. Nous savons très mal travailler avec nos personnalités célèbres, regrette Helena Musilova.
Et c'est vraiment très dommage. Peut-être que c'est lié à une certaine forme de caractère en Europe centrale. Nous sommes bien installés ici entre nos petites montagnes, nous sommes satisfaits et dès que quelqu'un dépasse un peu ses limites, on lui en tient un peu rigueur. Bien sûr, je généralise un peu, mais d'un autre côté, nous avons eu toute une série d'artistes importants qui ont émigré après 1948 ou après 1968, et qui, à leur retour après la Révolution, n'ont pas forcément été accueillis avec un grand enthousiasme.
Když se vraceli po revoluci, tak nepřivítávalo velké nadšení.
Ono vlastně v tom českém prostředí existují jenom ti, kteří se vrátili. To je jako zajímavá věc. A Emil Cossa, my víme.
Dans le contexte tchèque, n'existe réellement que ceux qui sont revenus, insiste encore Jaroslav Olša, qui rappelle que le plus célèbre des acteurs tchèques à Hollywood n'est pas Jan Tříska ou Jiří Voskovec, connu pour son rôle dans le film 12 hommes en colère, comme le pensent d'ailleurs aussi souvent les Tchèques, mais bien Francis ou František Lederer, dont le visage a été autrefois à l'affiche aux côtés de Ginger Rogers. Mais lui n'est jamais revenu dans sa Prague natale et a été oublié dans son pays d'origine. Emil Cossa Jr., lui, n'est revenu que brièvement en Tchécoslovaquie dans les années 60, dans des circonstances peu claires. Il meurt aux États-Unis le 4 novembre 1968, peu de temps après l'invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes soviétiques, et il tombe peu à peu dans l'oubli, alors que son nom est associé à d'autres grands films comme Le Tour du Monde en 80 jours ou encore La Mélodie du Bonheur. Aujourd'hui, son œuvre connaît un regain d'intérêt, tant aux États-Unis qu'en Europe centrale, une grande exposition prévue à Prague en 2028 et préparée par Helena Musilova devrait enfin présenter Emil Cossa Jr. comme ce qu'il fut réellement, un artiste tchèque majeur du XXe siècle à la croisée de la peinture, du cinéma et de l'histoire culturelle transatlantique.